L'Esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, et avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à l'état de la droite à 9 mois des primaires. Le Conseil national des Républicains s'est tenu le week-end dernier. Il a donné le coup d'envoi des primaires de la droite et du centre, qui auront lieu les 20 et 27 novembre prochains. Nicolas Sarkozy a conclu le rassemblement par l'exposé d'un texte d'orientation destiné à devenir un projet collectif pour 2017. 7 candidats se sont déjà déclarés. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, actuel favori des sondages, l'ex-premier ministre François Fillon, positionné sur le créneau du libéralisme de type thatchérien, et l'ancien président de l'UMP, Jean-François Copé, dernier en date à avoir annoncé sa candidature. Sont aussi dans la course Nadine Morano et Jean-Frédéric Poisson, ancien fer de lance de la Manif pour tous, Hervé Mariton, qui avait fait une percée médiatique comme candidat à la présidence de l'UMP, et enfin Frédéric Lefebvre, ancien porte-parole de ce parti entre 2008 et 2010. L'annonce de 3 autres candidatures est encore attendue, celle de Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, de Nathalie Kosciusko-Morizet, ex-ministre de l'Écologie, et de Nicolas Sarkozy, président du parti et ancien président de la République. Pour être candidat à cette primaire de la droite, il faut rassembler le parrainage de 20 parlementaires, il y a 190 députés et 144 sénateurs LR, de 250 élus d'au moins 30 départements différents et de 2500 adhérents répartis sur au moins 15 départements. Nicolas Sarkozy, cette semaine, a été mis en examen, soupçonné d'avoir sciemment dépassé le plafond légal des dépenses engagées lors de la présidentielle de 2012. Il est placé sous le statut de témoin assisté dans l'affaire Bing Ballion et poursuivi pour corruption active, trafic d'influence et recel de violation du secret professionnel dans l'affaire dite des écoutes. Les projets des concurrents à la primaire convergent sur de nombreux points, quitte à différer dans le degré ou la radicalité. Tous prônent une réduction des dépenses publiques et un report de l'âge de la retraite, ainsi qu'un traitement plus ferme de la question des migrations. Parmi les questions qui suscitent des clivages plus importants figurent celles de la loi Taubira sur le mariage pour tous, qu'Hervé Mariton et Jean-Frédéric Poisson veulent abroger, contrairement aux autres candidats. Et in fine, on n'observe pas de rupture idéologique au sein du parti, même s'il existe des divergences stratégiques non négligeables, par exemple entre ceux qui visent les déçus de la droite passés au Front National et ceux qui ciblent plutôt les électeurs du centre-gauche. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, Philippe, je crois que vous avez raison de signaler que le clivage idéologique n'est pas dominant à droite. Je crois que c'est la grande différence entre la situation de la gauche et la situation de la droite. La situation de la gauche est vraiment très très tendue maintenant sur le plan idéologique, et les projets de Madame El Khomri, de ce point de vue-là, accentuent le conflit des deux gauches. À droite, pas du tout. Non pas parce qu'il n'y a pas de conflit idéologique, mais parce que le vrai clivage qui existe à gauche comme à droite, entre les mondialisateurs et les nationalisateurs, les protectionnistes, la société d'ouverture d'un côté, la société de fermeture de l'autre, est très très portée par le clivage, qui est quand même avec une ligne étanche très forte, entre le Front National et les Républicains et l'UDI de l'autre côté. Donc on a... entre les gens de droite, on a des différences d'appréciation stratégique, comme vous l'avez soulevé. On a un dosage différent entre sur des problèmes importants, l'attitude vis-à-vis de Poutine, où M. Fillon est assez en tête dans une certaine attitude de complaisance à l'égard de Poutine, alors que, par exemple, Alain Juppé est beaucoup plus ferme sur ces questions. On a aussi un axe qui se déplace sur le libéralisme. On a plus ou moins de vigueur sur l'Europe, mais personne ne met en cause l'euro, personne ne met en cause l'insertion de la France dans la construction européenne, et donc c'est une affaire de dosage du cocktail bien davantage que de choix du menu. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important, parce que les choix de personne, c'est tout à fait légitime et tout à fait fondamental. Alors, si les choses se passent bien sur le plan procédural, eh bien, on devrait avoir quand même quelque chose qui marche relativement bien, alors que nous sommes en train d'observer que dans l'ensemble de l'espace politique français, eh bien, cet espace est divisé non pas en trois, mais en quatre, ce que j'ai toujours pensé, une extrême droite et une extrême gauche anti-mondialisatrice sous des formes différentes, pas exactement identiques, l'attitude sur les immigrés n'est pas la même à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, une droite modérée et une gauche modérée, mais une césure extrêmement violente à l'intérieur de la gauche entre ces deux notions et une très grande difficulté pour Hollande à arbitrer ça. Donc on n'a pas du tout la même configuration. Alors que s'est-il passé cette semaine? Où en est le rapport de force? D'abord, il y a l'hypothèque Sarkozy. Sarkozy a été mis en examen. Est-ce que ça plombe complètement sa campagne? Est-ce que c'est simplement une banderie de plus, une difficulté de plus? J'inclinerai plutôt vers la seconde hypothèse, mais en sachant qu'à tout moment, ça peut exploser, le phénomène Sarkozy. J'inclinerai parce que, pour une raison simple, c'est que je pense que les électeurs de droite n'ont pas envie de voir leur choix préempté par des juges. Les juges, c'est bien, mais le choix du futur candidat, du futur président de la République, c'est l'affaire des citoyens. Cela dit, je tempère tout de suite cette observation en disant que ça mine quand même un peu la candidature Sarkozy sur le thème « est-ce qu'il est bien fiable ?» Car nous voulons battre Hollande, nous voulons battre Marine Le Pen, je parle des électeurs de droite, et est-ce qu'on n'a pas un risque important si on met toutes nos billes autour derrière sur Sarkozy, est-ce qu'on n'a pas le risque de le voir exploser en vol avant l'échéance? Donc là, je crois que ça fragilise son situation. D'une façon générale, je crois que Sarkozy est en but à trois paradoxes. Le premier paradoxe, c'est qu'il a un bilan qui est beaucoup moins négligeable et beaucoup moins négatif que ce qu'on dit partout, mais qu'il n'assume en aucune façon. Parce que ce n'est plus le sien. Il a un bilan européen qui est tout à fait honorable. Il a un bilan en matière de liberté publique à travers la réforme constitutionnelle, le renforcement des pouvoirs du Parlement, la question préalable de constitutionnalité qui est tout à fait défendable. Il a mené des réformes qui ne sont pas négligeables, même si elles sont insuffisantes, en matière universitaire, en matière de retraite. Il a engagé un processus de décrue de la fonction publique qui a été interrompu par la suite. Tout ça aurait dû conduire Sarkozy à dire « j'en ai pas fait assez, c'était très difficile, j'ai ouvert les chantiers, il faut maintenant que je continue ». C'est pas ça du tout qu'il dit. Il se met dans une posture très anti-européenne, très anti-droite, très très droitière, et qui lui conduit à ne pas assumer sur la sécurité. Il n'assume pas son bilan de liberté publique, et sur l'Europe, il caracole sur Schengen, etc. Il n'assume pas le fait qu'il a assez bien conduit les affaires européennes quand il en avait la charge. C'est le premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est qu'il est candidat gaulliste à la présidence de la République et qui se conduit en chef de parti, qu'il essaie d'imposer à la droite un choix partisan, celui des Républicains, alors même que le futur candidat sera le candidat de la droite et du centre et ne sera lié que par lui-même. C'est lui qui dictera ce que l'on fera. Là, il est en porte-à-faux idéologique. Le troisième paradoxe, c'est qu'il va être amené à... Il est candidat à la présidence de la République alors que le reproche, les griefs qu'on a contre lui, c'est précisément son comportement en matière financière, en matière de gestion, c'est sur sa campagne présidentielle. Donc plus il se rapproche de la gestion de sa campagne présidentielle, plus ses turpitudes d'hier apparaîtront comme une piqûre de rappel. Alors tout ça je termine en disant, est-ce que cet affaiblissement de Nicolas Sarkozy, à qui ça profite? Je crois que ça ne profite pas nécessairement à Alain Juppé, parce qu'Alain Juppé est pour l'instant le meilleur candidat qui n'est pas Nicolas Sarkozy, dont la plupart des gens de droite ne veulent pas. Le départ de Nicolas Sarkozy ouvrirait sans doute assez largement la voie à droite et rétablirait des possibilités, je ne pense pas pour Copé, mais en tout cas pour Fillon ou pour Le Maire, qui sont actuellement extrêmement frappés dans leur croissance par l'opposition Sarkozy-Juppé. Donc ça réouvrira un peu le débat.
Merci. Quand vous dites « je termine en 10 ans », j'ai toujours une petite inquiétude. Je me demande comment on décrit 10 ans.
Je dis en terminant.
Thierry Pêche.
Vous voulez dire en trois mots ou en deux mots, en 10 ans? Quelques remarques. D'abord, la première, 10 candidats sur la ligne de départ, 7 aujourd'hui et 3 probables, c'est beaucoup. Et la primaire n'est pas une procédure magique. Il peut y avoir des effets de dispersion des voix.
Ils ne seront pas candidats.
On verra, on verra. Je ne suis pas Madame Soleil, vous, si Jean-Louis.
Il faut 25,
vous...
Juste, j'aurais dû le dire, il faut 25 candidats, il faut 25 députés. Quand les premiers seront servis, il n'y aura pas beaucoup de place pour les autres.
Il faut 20 parlementaires, 250 élus d'au moins 30 départements et 2500 adhérents. D'accord. Le seul qui peut s'en tirer, c'est Poisson, parce qu'il peut se présenter au nom d'un autre parti, oui. Le petit parti.
Voilà, mais attendez, le jeu n'est pas fini.
Enfin, le seul, celui qui a un autre moyen.
Je reviendrai sur la position de l'UDI, qu'on entend peu dans cette affaire. Oui, hein, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la liste et qui pourraient se manifester. Donc, que ce soit 9, 10 ou 11 candidats, ça fait beaucoup sur la ligne de départ, ça peut disperser des voix, et la procédure de la primaire n'est pas magique, et il peut y avoir des phénomènes de 21 avril à l'intérieur même des primaires. Vous pouvez très bien avoir l'exécution par dispersion des voix d'un des candidats favoris au premier tour et un deuxième tour d'enregistrement avec un rapport de force très déséquilibré. C'est possible, c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Deuxième observation concernant Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy est en train de sombrer, de disparaître de l'horizon de la droite, des espérances de la droite pour gagner l'élection présidentielle. Pas tellement en raison des affaires judiciaires, mais parce que il est en train de se passer à droite ce qui s'est passé à gauche en 2011. Il ne permet plus de croire à la victoire. Voilà. Et ça, quand vous avez été dans l'opposition 5 ans et que vous jugez que votre adversaire est illégitime, ce qui est le cas de beaucoup de gens de droite dans ce pays, vous avez d'abord envie de gagner. On verra après pourquoi faire, mais vous avez d'abord envie de gagner. Les humeurs militantes sont de cette nature-là. Les passions politiques vous portent à vous conduire, à vous comporter à partir de ce critère-là. Et Nicolas Sarkozy ne fait plus croire à la victoire. Et s'il veut à nouveau faire croire à la victoire, il va falloir qu'il renverse la table d'une certaine façon. Et c'est sans doute pas en épousant une ligne Buisson qu'il y arrivera. Troisième observation concernant l'UDI. Alors moi je suis frappé, on dit c'est les primaires de la droite et du centre. Où est le centre? Que dit le centre? Des primaires de la droite et du centre, c'est pas des primaires de parti. Ou alors, il n'y a aucune différence entre la droite et le centre. Et je laisse à Jean-Louis le soin de vous rappeler qu'elles existent. Mais j'aimerais bien d'ailleurs l'entendre pour savoir sur quoi elles se manifestent aujourd'hui.
Je suis à votre disposition pour parler.
Voilà, je sais bien. En 10 ans. Non. C'est un point très sérieux. Parce que si l'UDI participe à la primaire, il faut que l'UDI soit représentée par des candidats à la primaire. Qui va représenter l'UDI? Mais si l'UDI participe à la primaire en ayant des candidats qui le représentent, comment vont se distribuer les investitures et quand? Si c'est avant ce que souhaite Nicolas Sarkozy, le prix de la participation de l'UDI à la primaire se monnayera en un certain nombre d'investitures. Si c'est après, le partage des investitures se fera à la lumière du rapport de force qui se sera exprimé dans la primaire. J'attends vraiment la position de M. Lagarde et de ses amis sur ce sujet. C'est très important. Quatrième observation.
Le candidat choisi devient le président de l'UMP. Hein. Président des Républicains, pardon.
En deux mots, si vous voulez bien, Philippe, on se contente de dire que la droite imite la gauche aujourd'hui avec cette affaire de primaire. Mais il y a quelque chose qui avait été mal organisé en 2011 à gauche, c'est la commission des investitures. Vous savez, les investitures avaient été distribuées par un accord entre Mme Aubry et Mme Duflot avant les primaires. Et ensuite, on a fait avec, si j'ose dire. Ce qui a créé d'ailleurs une certaine perturbation dans la construction de la majorité aux législatives. Est-ce que la droite peut parfaire le dispositif et comment? C'est une question que je laisse ouverte. Moi, j'ai fait des propositions il y a quelques mois là-dessus. Je les tiens à la disposition des gens que ça intéresse. Alain Juppé, en deux mots. J'aimerais savoir de quoi Alain Juppé est le nom. Parce que dès lors que Nicolas Sarkozy ne cachera plus Alain Juppé comme seul personnage d'un règlement de compte entre les chefs, si vous voulez. On va regarder Alain Juppé pour ce qu'il dit. Et il dit peu de choses. Mais le peu qu'il dit mérite quand même qu'on s'y intéresse. Sur l'éducation, c'est très intéressant. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce qu'il propose et je dois dire qu'il y a beaucoup plus de continuité que de rupture avec ce qui a été fait ces 5 dernières années et même, on peut dire, ces 10 dernières années. En revanche, sur l'ordre et la sécurité, j'étais très surpris de voir sous la plume d'Alain Juppé des idées comme, par exemple, j'ai retenu celle-là parce qu'elle m'avait frappé. Le fait qu'on pourrait refuser la nationalité à un enfant né sur le sol français, demandant la nationalité à 18 ans, au motif qu'un de ses deux parents n'aurait pas été en situation régulière au moment de sa naissance. Ça me paraît être une idée assez inacceptable, qu'on pourrait résumer d'un trait, si vous voulez bien, je dirais, c'est « si ce n'est toi, c'est donc ton père ». Ça n'est pas juste, tout simplement. Et je n'attendais pas ça de quelqu'un comme Alain Juppé. Donc maintenant, si vous voulez, on va regarder Alain Juppé pour ce qu'il dit. On va regarder de près ce qu'il propose. Et on va voir si c'est un candidat de compromis, comme le croit une partie de la gauche et une partie du centre, ou si c'est un candidat vraiment de droite sur ces sujets. Un dernier mot, je ne crois pas à la quadripartition dont parle Jean-Louis. On ne peut pas comparer une extrême gauche qui est à moins de 10% avec un Front National qui est autour de 20%. C'est juste un artifice géométrique. En réalité, les poids relatifs des forces font qu'il y a bien trois grandes forces susceptibles d'être au deuxième tour dans ce pays et l'extrême gauche n'en fait pas partie.
Nicole Nisotto.
Oui, moi j'ai deux observations. D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Louis sur le fait qu'il n'y a pas ou plus de conflit idéologique à droite. Ce qui est vrai, mais moi je trouve que l'explication est inquiétante pour la droite. Il me semble qu'elle est victime d'un phénomène de captation de son idéologie traditionnelle, de son fonds de commerce idéologique. Sur ces deux extrêmes, à l'extrême droite évidemment, parce que le Front National a repris tous les thèmes de la sécurité, de l'identité nationale, de la protection du peuple, mais surtout elle est victime de ce phénomène de captation sur la gauche, parce que la gauche, et en particulier le gouvernement, depuis quelque temps, fonde son identité sur les mêmes thèmes de la sécurité, de la protection constitutionnelle, de l'État fort, du rôle de l'État, et maintenant du libéralisme économique, comme on le voit à travers la réforme du Code du travail. Du coup, cette droite se retrouve absolument dépossédée de ce qui faisait son identité auprès de son électeur. Et je trouve qu'il y a un paradoxe très, très frappant en France, c'est-à-dire on a une droitisation de la société qui est continue depuis quelques années, voire quelques décennies, et plus la droitisation de la société entière se renforce, plus la marginalisation de l'appareil politique de droite se renforce également, et la crise de la droite me paraît être simplement l'effet d'une droitisation de la France. Le conservatisme aujourd'hui, au sens politique du terme, le conservatisme aujourd'hui, c'est plutôt la gauche qui l'incarne, je crois, à travers tous les dossiers, que ce soit la politique étrangère, la mondialisation, etc., etc. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, c'est sur, alors là, peut-être plus général, sur le système français. Il y a, on l'a vu pendant toutes les précédentes élections, en particulier au régional, il y a une vraie demande, une attente de l'opinion vis-à-vis d'un renouvellement du système politique français, vis-à-vis d'un renouvellement des élites d'un côté, et d'autre part, on voit, y compris à travers les primaires de droite et peut-être des futures primaires de gauche, une impossibilité totale de renouveler ce personnel politique. Il y a une très grande attente des citoyens et une très grande sclérose des appareils. Et quand on regarde les candidats, la dizaine de candidats possibles ou déclarés à droite, on a ce sentiment d'une répétition des mêmes. Alors, le couple Juppé-Sarkozy est caricature de cette répétition du personnel politique. Moi, j'adore Alain Juppé, mais quand même, on ne peut pas dire que ce soit une nouvelle figure. Et rien de ce qui se passe dans les autres pays européens, que ce soit en Grèce, en Italie, en Espagne, avec des mouvements alternatifs nouveaux de l'organisation politique n'est visible à droite. Et quand il y a des jeunes, des nouvelles têtes, et notamment à droite, mais ce n'est pas seulement le cas, comme Bruno Le Maire, par exemple, eh bien, il y a ce phénomène très français où ils intègrent même l'idée que la valeur doit attendre le nombre des années. Et on a donc, du coup, cette sclérose qui est renforcée par les personnels, par les candidats jeunes eux-mêmes au sein de la droite.
François Bujon de l'Étang.
Alors, ce qui me frappe cette fois-ci, enfin pour l'élection présidentielle de 2017, c'est que la droite se trouve dans une situation inédite pour elle. Et elle se trouve face, je crois, à un triple défi. Le premier défi, évidemment, il va de soi, c'est le développement et le renforcement continu du Front National, avec évidemment le péril permanent que le Front National vole des électeurs à la droite dite de gouvernement. Le Front National pêche dans les eaux de la droite. Mais les élections régionales ont bien montré récemment que le Front National avait fait en réalité obstacle en imposant des triangulaires à la victoire tant attendue et déjà annoncée de la droite. Donc ça, c'est évidemment un tout premier défi. Le deuxième défi, c'est le problème Sarkozy, effectivement. Alors, Jean-Louis en a parlé sur le plan notamment des affaires judiciaires, mais l'idée que l'un des candidats qui fasse la courte en tête est un candidat battu il y a 4 ans, est en soi assez nouvelle. Ça n'est pas souvent arrivé à la droite qu'un président sortant et battu se représente. Giscard y avait songé, mais n'y était pas parvenu. Alors c'est d'autant plus frappant que M. Sarkozy a été battu en 2012 pour toutes sortes de raisons, dont l'une était la ligne qu'il avait choisie, la ligne stratégique qui était de se rapprocher au fond de la frontière du Front National. Cette ligne a été désavouée, elle a été battue depuis le discours de Grenoble. Au fond, il y a cette dérive droitière de Sarkozy dont les électeurs l'ont puni. Et pourtant, il s'y tient, il persiste, il signe. Son livre, son texte d'orientation le montre. C'est la ligne qu'il choisit, une ligne droitière, une ligne clivante, pour gagner à droite en tenant en lisière le Front National. Alors, ça pose tout de même un problème, parce qu'un président battu qui réédite une stratégie perdante, c'est évidemment un défi pour la droite. Ajoutons le problème des primaires, troisième défi, parce que on dit toujours, enfin c'est un des clichés qu'on a toujours entendu sur l'UMP, maintenant sur les Républicains, un parti bonapartiste. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je n'ai jamais vu 18 Brumaire au terme de ses actions, mais c'est l'idée que c'est un parti rassemblé autour d'un chef et qui mène un combat derrière le chef. Alors, évidemment, les primaires, c'est complètement nouveau, et ça bouleverse, évidemment, toute cette notion, toute cette tradition, si vous voulez, d'un parti bonapartiste. Ça relative vise complètement le poids du parti. Et au fond, c'est une autre stratégie perdante que Sarkozy a utilisée. Il a voulu prendre le contrôle du parti, comme jadis Chirac dans les années 70, par exemple, prenait le contrôle du RPR, parce qu'il pensait que c'était la condition nécessaire et suffisante pour être le candidat tout désigné de la droite. Pas du tout. Les primaires ruinent cette stratégie. Le parti, c'est une chose, mais beaucoup d'autres candidats qui ne sont pas présidents du parti peuvent constituer des menaces autrement difficiles. Donc les primaires ouvrent le jeu à un point tel que le parti se trouve quasiment marginalisé. Alors ceci étant posé, Jean-Louis et Nicole ont dit un mot du fait qu'il n'y avait pas de conflit idéologique à droite. C'est un débat. Le grand péril des primaires, c'était évidemment de semer la division parmi la droite, d'autant plus qu'il y a de nombreux candidats, une dizaine. Thierry dit que c'est une foule, ce n'est rien à côté du Parti républicain américain, où ils étaient 17 au départ, oui, par exemple.
Comme la primaire américaine est régionalisée, il s'élimine progressivement.
Oui, ça se décante progressivement.
Là, ça va se jouer en une fois.
Mais je pense que vous n'en trouverez pas 10, effectivement, en novembre prochain. Mais ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, c'est un facteur de division entre des candidats qui sont rivaux. Mais il n'y a pas une fatalité de la division. Et ce qui me frappe, c'est que si vous regardez au fond les programmes qui ont été articulés par les uns et par les autres, les livres publiés par les uns ou par les autres, vous trouvez un tronc commun assez important dans les réformes qu'ils préconisent. On voit très bien dans le domaine économique et social, tout le monde est à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire, sur l'ISF, sur les 35 heures, sur la fiscalité, sur le droit du travail. Il y a une dose considérable d'accord, au fond, avec des nuances, mais d'accord sur le fond. Dans le domaine sociétal, c'est pareil, que ce soit la politique familiale ou les migrants, vous trouvez cette base commune, disons. Alors, au fond, l'opposition principale, on la voit bien se profiler. Elle est entre Sarkozy, Copé, enfin cette ligne-là, si vous voulez, et puis de l'autre côté, Juppé, à la rigueur Fillon, parce que Fillon a adopté un programme extrêmement libéral. Mais elle est surtout entre Sarkozy et Juppé, puisque c'est eux qui émergent des sondages, avec pour l'instant un fort avantage pour Juppé. Et on voit bien la triple opposition entre ces deux personnalités. Il y a d'abord une opposition de stratégie. C'est la stratégie de la droitisation, celle de Sarkozy, contre celle de la modération, qui est celle de Juppé. Et puis il y a une opposition dans les tactiques aussi. On voit très bien que Sarkozy pense qu'il faut être clivant pour gagner. C'est vraiment un de ses principes directeurs. Alors que Juppé pense qu'il faut au contraire être rassembleur pour avoir notamment le soutien des centristes qui est un très très grand atout. Et puis j'ai à peine besoin de le dire, mais il y a un conflit de personnalité majeur entre ces deux hommes. Et c'est au fond, plus que sur les programmes qui sont assez semblables, que la personnalité qui déterminera la victoire.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, Quelques observations rapides sur la quadripartisme, le quadripartisme ou le tripartisme. Je ne suis pas du tout d'accord avec Thierry. Je crois qu'il y a bien quatre familles, et c'est pas l'extrême gauche par rapport à une gauche dominante. Ce que montre l'affaire El Khomri, c'est à quel point les sociolibéraux.
Comment ? Il n'y a pas d'affaire,
El Khomri. Si, il y a une affaire, ça, clairement. Il y a clairement une affaire. Il y a vraiment une levée de bouclier très profonde de la majorité du Parti socialiste contre cette loi. Et on voit bien que le problème fondamental, et c'est là où je crois qu'il y a que je ne suis pas d'accord avec Nicole, il y a un problème fondamental de majorité pour Hollande. Hollande, un journaliste titré, je crois, un journal titré vendredi, que Hollande était entré en cohabitation. En cohabitation avec le Parti socialiste, c'est tout à fait exact. Le problème maintenant de Hollande, soit il abandonne Madame El Khomri, et on a une nouvelle édition du Vieil homme et la mère qu'on a déjà eu avec la loi Macron, c'est-à-dire qu'il ne restera à la fin que les arêtes du projet de loi, ou alors il tient, et là il est en opposition frontale avec sa majorité, et demain, il ne sera pas porté par une majorité potentielle. Cette rupture-là, elle est très importante. Hollande risque de ne pas avoir de majorité. Sur Juppé, un mot sur Juppé. Je crois que, bon, vous avez signalé des choses sur la nationalité, tout le monde dit un peu n'importe quoi sur ce sujet. Ce qui me frappe, c'est quand même l'extrême modération et réalisme. J'ai écouté Alain Juppé jeudi ou mercredi dans son intervention, c'était tout à fait intéressant, son programme économique. C'est vraiment quelqu'un qui a un courage assez grand, qui est le courage de ne pas faire rêver. Il pense, comme M. Gaucher, que le pire des choses, c'est de réenchanter la politique. Et en fait, il essaie, coûte que coûte, de proposer aux gens des solutions qui sont à peu près réalistes et qui peuvent accepter. Ça ne réussit pas toujours. Balladur avait essayé, il a échoué, il a été jugé arrogant, alors qu'en réalité, il avait péché par humilité, c'est-à-dire face à Chirac, qui disait « on peut tout changer, le volontarisme, la fracture sociale, etc. » et qui n'avait rien changé. Dernière remarque sur l'âge. Je pense que ce qui caractérise la situation présente, c'est pas que ça profite aux jeunes, c'est que ça profite aux jeunes et aux vieux. Regardez les leaders qui sortent, ce sont un vieillard en Angleterre, un Sanders, un vieillard aux États-Unis, un autre vieillard. Oui.
Un autre vieillard. Je vais ouvrir un bureau des inscriptions.
Je fais partie de la catégorie, je vous rassure, François. Un autre vieillard avec Trump, ou alors
mais
des jeunes.
Ils perdent.
Ou alors des jeunes, ils perdent. Enfin, ils font ou alors des jeunes, c'est-à-dire Tsipras, Iglesias, etc. Ce qui est frappé, c'est la catégorie, c'est une grande chance pour nous, François. C'est la catégorie intermédiaire, celle des 40, des 50, 70 ans. Ça, ce sont les vaincus aujourd'hui. Donc, on a bien une situation de contestation d'une génération par la génération qui précède et la génération qui suit.
Les auditeurs de l'Esprit Public viennent d'assister à la création d'un nouveau parti, le parti des déambulateurs. François Bujon.
Non, sur l'âge, j'ai une remarque en réponse à Jean-Louis. J'ai un ami démographe qui me dit toujours, mais au fond, nos sociétés sont vieillissantes, les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps et elles votent assez régulièrement, alors que les jeunes sont relativement de moins en moins nombreux et votent moins. Donc pourquoi nos sociétés éliraient-elles toujours des présidents de 40 ans ? C'est la chance d'Hillary Clinton ou c'est celle de Juppé ? J'ajoute quand même un dernier mot, si vous permettez, c'est que une chose que l'on peut dire en écho à Nicole, c'est qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement générationnel à droite. Et ça, c'est quand même très très frappant.
Vous savez ce que disait Jean Rostand, c'est le vieillard qui vieillit le moins.
Thierry Pêche. Alors, je vois que Jean-Louis est entré en campagne. Ça, c'est manifeste. Il aime trouver des clivages qui n'existent pas. À gauche, il ne les reconnaît pas à droite. Cette situation risque de durer quelques mois. Je préviens les auditeurs. Probablement, cette discussion aura lieu plusieurs fois dans les semaines qui viennent. Alors, deux observations. La première, beaucoup va dépendre dans ces primaires de la taille du corps électoral. Si le corps électoral atteint les 2,5-3 millions d'électeurs, comme ça avait été le cas pour le Parti socialiste, on aura un échantillon assez représentatif, probablement, de l'électorat, de la vraie compétition. Et à ce moment-là, la ligne qui semble avoir votre faveur, je dis « semble » par euphémisme, qui a votre faveur, Jean-Louis, pourrait tout à fait l'emporter. En revanche, si,
contenter d'analyser.
J'en suis pas sûr. J'ai entendu le souffle et le son de votre conscience politique au-delà de vos analyses. En revanche, si le corps électoral est plus réduit, si cette primaire ne passionne pas, s'il n'y a pas une controverse qui l'habite, parce qu'il y avait une controverse en 2011, il y avait la démondialisation de Montebourg, il y avait le social-libéralisme de Valls, il y avait le modérantisme de Hollande. Bon. S'il n'y a pas de controverse à trancher, à ce moment-là, cette primaire ne passionnera pas et son résultat risque d'être aléatoire. Un dernier mot, Philippe, je suis désolé.
Ne soyez pas désolé.
Voilà. Ça t'a fait un mot de un dernier mot, je pense que Sarkozy a surfé en 2007 sur la transgression comme manifestation de la volonté politique et de l'énergie politique. Et cette idée, la transgression tenant lieu d'idéologie, ne tient plus. Et elle s'affronte aujourd'hui, et c'est ça le débat de style, puisqu'il n'y a pas encore de débat de fond avec Juppé, elle s'affronte à une autre idée qui est la stabilité et la raison.
Je vous remercie. Je vous propose que nous intéressions à la situation de la crise, à l'évolution de la crise syrienne. Ankara a connu mercredi dernier un nouvel attentat qui a causé la mort d'au moins 28 personnes et plusieurs dizaines de blessés à proximité de nombreux ministères et du Parlement. Le Premier ministre turc a accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan et les unités de protection du peuple, une milice kurde de Syrie, d'en être les auteurs. Le co-président du Parti de l'Union démocratique a nié l'implication de son bras armé dans l'attentat. L'accusation portée par Ahmet Davutoğlu, le Premier ministre turc, fait craindre une intervention au sol de la Turquie après qu'une deuxième attaque a été perpétrée jeudi par le PKK contre un convoi de l'armée syrienne, provoquant la mort de 6 personnes. Alors que le groupe international de soutien à la Syrie, qui regroupe 17 pays, était parvenu à un accord à Munich le 11 février, les bombardements menés par l'artillerie turque sur les territoires kurdes dans le nord de la Syrie, depuis le week-end dernier, soit deux jours seulement après l'accord, ont considérablement réduit l'espoir d'un cessez-le-feu. Pour l'heure, la seule décision de l'accord de Munich suivie d'effet, c'est l'envoi par l'ONU de convois de vivres et de matériel sanitaire dans les villes assiégées par le régime ou par les rebelles, convois qui ont commencé à parvenir à la population au milieu de cette semaine. Alep, la deuxième ville de Syrie, est soumise depuis début février à une attaque massive du régime de Damas, épaulée par une forte offensive de l'aviation russe. L'armée de Bachar el-Assad est parvenue à couper la route d'approvisionnement entre Alep et la Turquie, principale base de ravitaillement des rebelles. La Turquie a attribué lundi dernier à la Russie des frappes contre des écoles et des hôpitaux, en l'accusant de crimes de guerre. Ces frappes ont provoqué la fuite de 35 000 civils, aujourd'hui bloqués à la frontière turque. Le président Erdogan a en effet décidé de maintenir ses frontières fermées et annoncé qu'il ne les ouvrirait qu'en cas de danger de mort pour les réfugiés, actuellement entassés côté syrien dans des camps de fortune. Ce blocage des frontières accroît l'impatience des Européens qui avaient accordé en novembre dernier à Ankara une aide de 3 milliards d'euros pour maintenir les 2,5 millions de réfugiés syriens sur son sol. L'Europe menace ainsi à son tour de renvoyer les réfugiés qui entrent par la Grèce vers la Turquie. 11 pays de l'Union Européenne volontaires pour accueillir des réfugiés syriens, dont la France, devait se retrouver jeudi dernier à l'initiative d'Angela Merkel en marge du Conseil européen. Le Premier ministre turc s'est fait excuser en raison de l'attentat de mercredi et la réunion a été annulée. Les négociations de paix en Syrie doivent reprendre jeudi prochain sous l'égide des Nations Unies. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Oui, elles doivent reprendre et personne, au fond, n'a vraiment l'espoir qu'elles puissent décoller et aboutir à quoi que ce soit. Non, ce qui ressort de tout ça, et cela ressort bien de vos remarques introductives, c'est que l'affaire syrienne, on pourrait presque dire l'affaire syro-turco-irano-russo, etc., est un imbroglio invraisemblable, d'une complexité sans cesse grandissante. Et elle est notamment d'une complexité qui a beaucoup grandi depuis l'intervention de la Russie au mois de septembre dernier. La situation bouge beaucoup sur le terrain, on l'a vu au cours de ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a des éléments nouveaux, je les énumère rapidement. Le premier élément nouveau, c'est l'encerclement d'Alep et l'offensive menée sur Alep par les forces, disons, loyalistes, les forces alliées à Bachar el-Assad. C'est d'ailleurs très symptomatique, je le dis en passant, de voir que, d'après ce qu'on entend, il y a relativement peu de forces de Damas, de force de l'armée syrienne, dans ce qui est en réalité une alliance de forces du Hezbollah, de ministres Pasdaran, etc., etc., et qui sont en train d'attaquer Alep, de l'encercler, ce qui mènera soit à un siège prolongé, soit à une victoire très, très, très importante, parce qu'on voit bien que la marée s'est retournée. Maintenant, elle joue en faveur d'Assad. Deuxième élément important, alors j'oublie de dire, mais ça va de soi, que tout ceci n'a été rendu possible, bien entendu, que par l'intervention des Russes et par le tapis de bombes dont les Russes font précéder l'avancée des troupes loyalistes. Le deuxième élément, ce sont les Kurdes de Syrie. Alors ça, c'est tout à fait singulier. Les Kurdes de Syrie ont été un élément très important dans la lutte contre les islamistes récemment. Rappelez-vous la victoire de Kobané. Et voilà que les Kurdes de Syrie aujourd'hui, afin de consolider leur quasi-autonomie et d'essayer d'établir, à l'instar de ce qu'ont fait les Kurdes d'Irak en Irak, une zone autonome, se sont plutôt alliés avec les forces loyalistes autour d'Alep, ce qui est un renversement d'alliance probablement purement tactique mais singulièrement intéressant, et ce qui les autorise à espérer qu'ils pourront créer une zone autonome pour eux au sud de la frontière turque. Alors ça, c'est un casus belli total avec la Turquie, bien entendu. Car la Turquie, elle, lutte certes contre Bachar, prétend lutter contre Daesh, mais n'en fait rien, mais lutte surtout contre les Kurdes. L'ennemi numéro un d'Ankara, ce sont les Kurdes de Turquie et leurs alliés, qui sont évidemment ceux du PYD dans le nord de la Syrie. Alors du coup, les Turcs interviennent militairement. Voilà une nouvelle complication. Ils interviennent directement contre les Kurdes du PYD qu'ils bombardent dans les localités qui séparent Alep de la frontière turque. Ils interviennent aussi au sol avec des forces spéciales, on en parle peu, mais ils le font pour protéger une minorité turkmène qui se trouve au sud de leur frontière, qui a été bombardée par les Russes d'ailleurs, ce qui est peut-être une des clés de l'incident aérien d'il y a quelques semaines. Et puis ils brandissent même des menaces contre les Russes, ce qui est tout à fait singulier, et ce qui d'ailleurs déclenche des menaces réciproques de la part des Russes. Mais enfin, les Turcs interviennent de plus en plus, jouent un rôle militaire, et constituent, je dirais, une menace un peu tous azimuts. Alors, pendant ce temps-là, la diplomatie, bien entendu, cherche à exercer ses droits, mais a le plus grand mal à le faire. Les négociations de Genève, qui avaient débuté il y a quelque temps, sont apparus mornés, puisqu'au fond, l'offensive contre Alep a montré l'inanité des tentatives de négociations pour obtenir un cessez-le-feu et une solution négociée, et que les Russes, qui ont beaucoup contribué à geler ces négociations, donnent l'impression qu'ils sont en train d'acheter du temps pour pouvoir parachever des succès militaires qui bouleverseraient, bien entendu, la donne. Donc, cette offensive russo-Assad sur Alep a complètement plombé ces négociations, qui doivent reprendre, en effet, le 25 février. Mais compte tenu des derniers développements, on peut nourrir les plus vives inquiétudes. Alors du coup, on s'est replié sur des problèmes humanitaires à Munich, mais on se trouve dans une situation de tension extrême et multiple, une grande tension Turquie-Russie, une grande tension entre Turquie et les Kurdes, et une grande tension entre la Turquie et l'Arabie Saoudite contre Bachar el-Assad, contre Damas et par conséquent contre la Russie. Les Américains sont très absents, très prudents, l'Europe complètement inexistante et la France parfaitement marginalisée.
Nicole Niesoto.
Oui, je crois que la complexité est double. Une première complexité diplomatique, c'est d'essayer de trouver une sortie de crise, une solution même temporaire. Mais il y a aussi une complexité dans l'analyse, et là je suis complètement d'accord avec François, cet imbroglio devient de plus en plus difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on a des séries de guerres dans la guerre, des alliances complètement opportunistes, les Kurdes parfois s'allient avec les Russes, parfois avec Damas. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, si vous me permettez l'expression. Et donc, moi je crois que pour essayer vraiment de clarifier les choses, je crois qu'il faut dire historiquement, au départ, c'est une guerre assez simple. C'est une guerre civile entre un pouvoir autoritaire et une rébellion plus ou moins animée par des idées démocratiques. Mais tout change, non pas avec l'intervention de la Russie, François, je crois, mais avec l'intervention de Daesh. À partir de janvier 2014, l'État islamique, qui était bien implanté en Irak et qui en avait fait sa base, décide de se de porter sa base et le cœur de son action sur le terrain syrien. Et cela produit deux évolutions du conflit qui le rendent effectivement très complexe. D'une part, son internationalisation et d'autre part, la pulvérisation du conflit. Internationalisation parce que les Américains prennent la tête d'une coalition anti-Daesh en juillet 2014. Les Russes n'interviennent qu'en septembre 2015. Et deuxième élément, à côté de cette internationalisation, il y a une pulvérisation du conflit au départ guerre civile. Et maintenant, on a quatre niveaux de guerre dans la guerre. On a donc, bien sûr, le régime de Damas contre la rébellion. On a la coalition américano-turque contre Daesh. On a la Turquie contre les Kurdes et enfin on a les Saoudiens contre les Iraniens. Et donc on a quatre guerres dans une guerre que personne ne contrôle et surtout pas les Américains. Je fais une parenthèse, l'absence de leadership américain ou plutôt le leadership réticent d'Obama dans cette affaire est largement responsable de l'impasse actuelle. Mais deuxièmement, même si on voit à peu près quels sont les quatre niveaux de conflit dans cette guerre, à l'intérieur de ces quatre conflits, il y a des alliances de revers, des alliances totalement opportunistes et des contradictions qui font qu'effectivement, aujourd'hui, la solution diplomatique, à mon avis, elle est totalement inexistante. Je prends un exemple. Donc, dans la coalition dirigée par les États-Unis et la Turquie, on s'allie avec les Kurdes contre Daesh. Mais dans cette coalition, les Turcs en profitent aussi pour bombarder les Kurdes, puisqu'ils ne veulent pas d'un État kurde. Donc les Américains ont deux bons alliés, la Turquie et les Kurdes, qui sont les meilleurs ennemis du monde. Première contradiction. L'État islamique contre Damas. En fait, Daesh a une stratégie que l'on appelle la stratégie du coucou. Il ne se bat pas contre le régime de Damas. Il se bat contre les rebelles. Pourquoi ? Parce que la rébellion est plus faible. Donc, toute la stratégie de Daesh, c'est de détruire les rebelles pour prendre les territoires occupés par les rebelles. Du coup, de facto, il conforte le régime de Damas. Troisième contradiction, la Russie, l'Iran, Damas se battent, soi-disant, contre les terroristes, et du coup, donc, amalgame aussi bien les rebelles et l'État islamique. Et enfin, les Kurdes sont totalement opportunistes. Là, c'est vraiment, on l'a vu dans les dernières semaines, les Kurdes sont nos alliés quand il le faut et nos ennemis. La conclusion de tout ça, c'est qu'il y a un seul grand perdant, ce sont les rebelles, enfin les forces que l'on pourrait appeler de démocratiques, ou en tout cas les forces qui se battent contre Damas. Il y a un grand gagnant, pour l'instant, ce sont les Kurdes, dont on ne sait pas trop comment ils vont évoluer. Et il y a deux forces en statu quo, ce qui est le régime de Bachar et Daesh, qui se maintiennent dans leur position.
Thierry Pêche.
Oui, alors, dans le camp des vainqueurs, je mettrai, outre, je vous rejoins Nicole sur ce point, les Kurdes, je crois que les Iraniens sont quand même dans une situation plus favorable que beaucoup d'autres acteurs sur ce théâtre-là. Enfin, c'est un point sur lequel on pourrait échanger. Non, moi, le point qui m'inquiète le plus, c'est la situation de la Turquie. Je trouve que la Turquie cumule un certain nombre de handicaps et de menaces. La dérive du régime d'Erdogan en interne est manifeste, et on l'a à plusieurs reprises commenté ici. Le chantage aux réfugiés qui est en train de se nouer dans les négociations entre la Turquie et l'Union européenne, qui explique en grande partie le silence européen, est assez préoccupant aussi. Cette idée à laquelle je finis par croire, et qui serait dramatique, selon laquelle il serait prêt à une intervention terrestre en Syrie, aux côtés des Saoudiens, est vraiment préoccupante, parce qu'alors là, ils ont beau faire partie de l'OTAN, ils pourraient nullement invoquer, en cas de représailles russes, l'article 5, étant non pas agressé, mais agresseur, en l'occurrence. Donc, je trouve que la situation de la Turquie est vraiment très, très inquiétante, et que malheureusement, le management d'Erdogan n'a rien pour dissiper cette inquiétude, au contraire. Et c'est ça qu'on va regarder de près, parce que la détermination d'Ankara contre les Kurdes du PYD et contre qui regardent comme une filiale du PKK, c'est une détermination féroce. Ils iront jusqu'au bout. Et je les crois capables de faire beaucoup de bêtises.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, vers l'Orient compliqué, il est vraiment de plus en plus difficile de s'envoler avec des idées simples, pour reprendre la célèbre formule du général de Gaulle. Je crois que vous avez parfaitement dessiné la situation. Ce que vous avez employé le mot, je crois que c'est François qui l'a employé, d'imbroglio, mais c'est vraiment la caractéristique de cette situation. On a quand on observe, on a un empilement, une espèce de sédimentation rapprochée de quatre conflits qui sont historiques et fondamentaux et qui se mêlent tous. Il y a d'abord, effectivement, pour prendre le plus ancien, le conflit religieux entre les chiites et les sunnites, qui rentraient depuis la transformation de l'Iran, la chute du Shah, dans une phase quand même extrêmement aiguë avec des péripéties considérables. Deuxièmement, on a le conflit entre la Turquie et le Kurdistan, qui est quand même une vieille affaire, qui met d'ailleurs en difficulté nos arbitrages. Troisièmement, on a le conflit, je veux dire, plus ancien, entre la Turquie et la Russie. On a quand même, c'est quand même une vieille affaire, là aussi. On s'est battu aux côtés des Turcs contre les Russes au 19e siècle. Et on a, enfin, le conflit de la guerre froide traditionnelle, États-Unis-Russie. Donc, tout ça se juxtapose, se mélange dans une espèce de partie absolument incontrôlable. Et alors, face à cela, on voit bien que la situation est extrêmement défavorable pour essayer de mettre de l'ordre, les forces de l'ordre. Ne parlons pas des Européens. Les Européens avaient fait historiquement deux arbitrages. L'arbitrage Sykes-Picot, qui est remis en cause par la remise en cause de la frontière irako-syrienne, et là, nos amis l'ont rappelé dans un entretien que nous avions avec François Bugeon ces derniers jours, le traité de Lausanne, qui, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, après la campagne brillante d'Atatürk, avait interdit le Kurdistan. On avait quand même, nous, Français, on avait consenti à ce qu'il n'y ait pas de Kurdistan en échange d'une participation à BP. Bon, c'était pas très brillant, mais c'était comme ça. Donc
À l'IPC,
oui, absolument. On est donc inexistants. Les Américains sont à la fois totalement vacillants, c'est-à-dire qu'ils ont menacé sans frapper, ce qui est la pire des choses selon Machiavel. Moi, je crois qu'ils n'auraient pas dû frapper, mais ils n'auraient surtout pas dû menacer avant. Donc, en ne frappant pas les Bachar el-Assad au moment de l'utilisation des gaz, et surtout, ils ne contrôlent plus personne dans la zone. Les premiers à s'être émancipés, ce sont les Iraniens, avec la révolution islamique de Roménie. Ensuite, maintenant, c'est le tour des Séoudiens. Donc, on a vraiment des gens qui ne contrôlent plus du tout. Et les Irakiens, ils ont fait la guerre pour avoir un régime à leur botte, et ça n'existe plus. Donc, ils ne contrôlent rien. Troisièmement, et je crois que c'est intéressant, c'est le problème des Russes. Car la clé, ce serait quand même une vieille entente russo-américaine, de type guerre froide. Quelles sont nos lignes? Quels sont nos avantages? Comment contrôler ça? Mais d'une part, l'Amérique est faible, et d'autre part, on ne sait pas ce qu'est la Russie. Est-ce que la Russie est le grand géant impérial de naguère qui est prêt à passer un vrai contrat avec l'Occident? Ou est-ce que c'est une sorte de rogue state, d'État voyou, qui déstabilise le système? Et donc, on est dans une situation, moi je crois que c'est quand même dans cette direction-là qu'on doit évoluer. Et puis, l'émancipation, j'ai oublié de dire évidemment la Turquie, l'émancipation par rapport à l'Occident. Donc on a à la fois un empilement de conflits, une émancipation générale des acteurs et une incapacité à résoudre les problèmes avant au moins que les élections américaines n'aient eu lieu.
Nicole Nézotto.
Deux commentaires rapides. D'abord sur la Turquie, je suis d'accord avec Thierry. La Turquie aujourd'hui, c'est l'allié de tous les dangers. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement incontrôlable. Et c'est d'autant plus étonnant, rappelez-vous, qu'il y a 10 ans, même pas, la Turquie était présentée comme le modèle d'un pays, de ce que pouvait être un pays islamique, modéré, négociant avec l'Union européenne, négociant avec ses Kurdes, puisqu'il y a eu quand même plusieurs tentatives d'accord avec les Kurdes de Turquie même, et qui avait comme politique étrangère pas d'ennui avec aucun de mes voisins, pas de problème avec aucun de mes voisins. Et 10 ans après, ce pays est effectivement un allié dangereux. Mais le point que je voulais surtout faire, c'est sur la Russie. Moi, je crois que seuls les Russes, aujourd'hui, ont une vision claire et une stratégie à peu près claire de ce qu'ils veulent dans la zone. Et ils ont une vraie idéologie, c'est-à-dire ils ont un vrai objectif. Alors, il y a l'objectif de puissance qui est effectivement de revenir dans le jeu du Moyen-Orient et de ne pas passer par perte et profit. Mais il y a surtout cette idée de briser l'idéologie démocratique, quelle soit en Ukraine, qu'elle soit dans les printemps arabes, qu'elle soit incarnée par quelques rebelles auprès de Damas. L'objectif de la Russie, c'est d'installer un système international qui repose sur l'État fort, la force militaire et le droit du plus fort. Et en cela, ils ont une vraie stratégie et malheureusement, je crains que c'est leur stratégie qui ne gagne.
François Vigeon de l'État.
Oui, alors, d'abord, je suis d'accord avec l'analyse chronologique du conflit qu'a fait Nicole. C'est vrai que les Russes, c'est la phase finale. Quand je disais que les Russes ont bouleversé la donne, ils l'ont bouleversée, mais elle avait déjà été bouleversée précédemment, en effet, par Daesh, en effet, par l'intervention américaine, bien que limitée, contre Daesh. Et on n'entendait pas la Russie pendant ce temps-là. Et puis voilà que d'un seul coup, la Russie intervient, et que non seulement cela fait basculer l'équilibre des forces sur le terrain en faveur de Damas, mais que ça fait ressortir en creux l'absence des États-Unis ou l'absence relative des États-Unis. Bien entendu, c'est un révélateur. Alors, un mot sur l'objectif des Russes, en effet. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicole là-dessus, mais les Russes tiennent une ligne extrêmement simple. Ils sont contre tout ce qui est démocratique ou que ça bouge, en effet. Mais les Russes tiennent une idée très simple. Depuis le début, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Entre Bachar et l'islamisme, il n'y a rien. C'est leur thèse depuis le début. Ils sont en train de la démontrer et ils y contribuent en éliminant tout ce qu'il pouvait y avoir entre les deux, d'ailleurs. C'est simple. Un mot sur les États-Unis. Pour dire que les États-Unis ont incontestablement une immense responsabilité dans la détérioration générale de la région. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont donné naissance de ce fait à Daesh en détruisant l'armée irakienne et en laissant les chiites au pouvoir à Bagdad écraser les sunnites de la province d'Anbar et tout ce qui s'ensuit. Mais il faut aussi comprendre que les Américains voulaient essentiellement se retirer du Moyen-Orient. Monsieur Obama est un président qui a été élu sur une plateforme consistant à dire « je retirerai les États-Unis de ces conflits épouvantables en Afghanistan et en Irak ». Il est totalement pris à contre-pied par le développement et il a commis l'erreur fatale. Alors on peut effectivement dire soit de ne pas bombarder, soit de définir une ligne rouge en 2013, mais il a fait une démonstration de faiblesse à ce moment-là, qui a encouragé au contraire les Russes qui se sont dit « les Américains sont faibles, on peut y aller ».
Je vous remercie, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, celle des brèves. Thierry Pêche.
Oui, je voulais vous recommander la réédition d'un livre de Gérald Bronner. Gérald Bronner que nous avons reçu ici. À deux reprises,
que nous fûmes parmi les premiers.
Oui, absolument. Donc, qui s'est fait connaître, du grand public par son livre qui s'intitulait La démocratie des crédules, mais qui avait
reçu le prix de la revue de Deux Mondes.
Qui avait déjà publié bien d'autres livres, et notamment ce livre qui est réédité, qui est un livre de 2009, qui s'appelle La pensée extrême, qui décortique les processus de radicalisation et qui fait la démonstration, s'il en fallait une, que la sociologie est tout sauf une excuse lorsqu'elle est bien faite.
Nicole Nisotto.
Oui, moi je voulais recommander le dernier numéro, celui de février 2016, numéro 422 de la revue Esprit, pour deux raisons. La première, parce qu'il y a un dossier sur les religions dans l'arène publique, et notamment un article d'Olivier Roy, non pas sur l'islamisme, le djihadisme radical, mais sur la place des religions dans la démocratie européenne, tout à fait intéressant, et parce qu'il y a un éditorial collectif sur le piège de l'état d'urgence, qui est à la fois extrêmement scandaleux, je pense, politiquement, mais donc extrêmement savoureux. Donc je recommande ceci. Un mot, si je puis dire, aussi, une pièce de théâtre formidable, qui est le Roméo et Juliette, monté par Eric Ruc à la Comédie Française, avec Souliane Brahim dans le rôle de Juliette, qui est un pur bonheur.
C'est un chef-d'œuvre d'intelligence de mise en scène. Eric Ruc a réussi à ne tomber dans aucun des pièges, aucun des clichés. C'est là où on voit vraiment que l'intelligence est une bien belle chose, même artistiquement parlant. François Bujon de l'Étang.
Pour tous les auditeurs de France Culture qui se passionnent pour les élections américaines, je sais que chaque année, enfin pas chaque année, mais tous les quatre ans, l'élection américaine fait passer un grand frisson toujours chez les Français qui aiment la politique. Je recommande la lecture de deux excellents articles publiés par la New York Review of Books et traduit, bien entendu, et présenté en français par la revue Books. Un article sur Monsieur Trump, qui est écrit par Michael Tomasky, un des grands écrivains de la gauche américaine, et qui montre ce qu'est le Citizen Trump, comme il l'appelle. Et un excellent article d'Elizabeth Drew, qui a d'ailleurs consacré un livre à ce sujet il y a 4 ou 5 ans, sur le rôle de l'argent dans les élections américaines et sur les décisions funestes de la Cour suprême qui ont supprimé le plafonnement des contributions politiques.
Ne laissons passer aucune occasion de dire du bien des revues et de la nécessité de les lire, en l'occurrence Esprit, et ni des magazines, puisque c'est entre la revue et le magazine qu'est Books, et de Books qui nous fait connaître le monde à travers les yeux étrangers.
Et nous permet de lire en français la New York Review.
Jean-Louis Bourlange.
Si vous m'y autorisez, Philippe, je voudrais reprendre la brève que je n'ai pas faite la semaine dernière, parce que vous m'avez interrompu sur Michel, que vous aviez raison d'ailleurs.
Moi, vous interromps.
Vous étiez le maître des horloges. Sur le fait que la mort de Michel Tournier, qui à mon avis est le plus grand écrivain français des 50 dernières années, est passée pratiquement inaperçue, n'a donné lieu à aucune commémoration. Alors je me suis interrogé sur cette raison, parce que pour moi, ça a été vraiment le grand choc littéraire de mes 30 ans, si vous voulez. Je trouvais que c'était un écrivain absolument fantastique. Il avait été idolâtré par François Mitterrand, par exemple, qui avait vraiment compris, saisi, admiré, rencontré, discuté avec lui. C'était bon. Pourquoi ce silence ? Alors, évidemment, on peut l'attribuer au fait que le ministre de la Culture de l'époque n'avait pas l'habitude de lire et que le président de la République n'a l'habitude que de lire les communiqués. Mais il y a quelque chose de plus profond. Il me semble que nous sommes là en face d'un écrivain qui ne correspond plus à notre époque pour des raisons qui tiennent aux défauts de notre époque. C'est-à-dire que c'est un homme qui a réinvesti l'ensemble des grands mythes, hein, le mythe des rois mages, le mythe de la gémellité, le mythe évidemment du roi des aulnes, le mythe de la vie sauvage, le mythe de Robinson, tous les grands mythes qui ont structuré notre civilisation. Et donc, ces livres étaient des livres qui n'étaient absolument pas égocentriques, égolatrique, qui était tourné vers une réflexion sur ce que nous sommes en profondeur. Et là, cette littérature sans estomac, pour reprendre le mot de Nolot que nous avions reçu à l'époque, cette littérature sans estomac qui a succédé à l'époque de Michel Tournier est évidemment aux antipodes de cela. Et je crois qu'il faut vraiment reprendre Michel Tournier, le saluer avec René Girard. C'est là, d'ailleurs, je vois le pendant entre les deux grandes figures. Ce sont peut-être les deux grandes figures philosophiques et littéraires des 50 dernières années en France. Sachons reconnaître nos trésors.
Je vous remercie. Moi, il me reste à peine le temps, mais j'y reviendrai la semaine prochaine, de signaler le dernier livre de Jean-Paul Kaufmann, Outre-Terre. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la famille Kaufmann, le père, la mère et les deux garçons, les deux grands garçons, de jeunes adultes, qui, pour l'anniversaire, le 100e anniversaire de la bataille d'Eylau, vont à Eylau. Et c'est un... Enfin, c'est un livre marqué par le style de Kaufmann, par la probité de Kaufmann. Cette façon de ne se complaire en rien, mais de ne laisser rien passer, puisque c'est en même temps, il s'agit de sa famille, et en même temps, il s'agit de cette bataille d'Eylau qui est le premier pas vers l'abîme, si je puis dire, pour Napoléon. D'ailleurs, au début de son livre, en exergue, Jean-Paul Kaufmann cite un texte de Sainte-Beuve que j'ai oublié, que je retrouve plus évidemment, et c'est aussi une méditation à travers le personnage du colonel Chabert qui commençait et mort à Eylau, sauf qu'il n'y est pas mort. Bref, je reviendrai la semaine prochaine, pardon de cette éloge un peu confus, mais c'est l'effet
de le portrait de gros qu'analyse Kaufmann, et le regard de Napoléon,
exactement, et le tableau réalisé par le baron Gros de cette bataille d'Eylau. Ma confusion s'explique par la longueur de la brève de Jean-Louis Bourlange.
je veux bien servir à la vie générale, et vous avez prêt à jouer ce rôle.
Et vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Crugère, et je vous recommande de vous accrocher à vos fauteuils, puisqu'il va essayer de vous convaincre de manger de la spiruline. La spiruline, c'est une sorte d'algue à spirale sans laquelle vous vivriez beaucoup moins bien.
Mais c'est ça qui vous a paralysé. C'est absolument la spiruline.
C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli et Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui la technique Élodie Royer. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit public. Merci.